Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, c'est une réunion technique, mais c'est une réunion importante. Mohamed El Momfi, le chef du conseil libyen du gouvernement, est à Sirte. Il va assister à une réunion de la commission militaire. L'objectif est de faire le point sur le cessez-le-feu dans le pays qui, pour l'instant, tient. Alors, il peut y avoir des suspicions, des mouvements de troupes qui sont jugés inquiétants par les uns et les autres. Mais globalement, disons quand même que le cessez-le-feu tient en Libye. En fait, la vraie question en ce moment, c'est celle de l'ouverture de la route côtière qui rejoint l'est et l'ouest du pays. Les opérations de déminage sont en cours. Elles seraient presque achevées. Donc, on va rentrer dans la phase finale. Cela permettra de fluidifier la circulation des hommes et des marchandises entre l'est et l'ouest de la Libye. Où le Comité national des droits de l'homme en Libye demande aux nouvelles autorités de prendre leurs responsabilités quant au dossier douloureux de la traite des êtres humains et du trafic de migrants. On se souvient de ces affaires absolument terrifiantes de migrants enfermés dans des centres de rétention qui étaient passés par les flammes, parfois même victimes de bombardements, tous ces gens qui meurent au large des côtes libyennes. Le Comité national des droits de l'homme demande à Tripoli, aux nouvelles autorités, à la nouvelle équipe gouvernementale de travailler à l'élimination des réseaux de contrebande et de tous ceux et celles qui pratiquent la traite d'êtres humains. Il aura suffi de quelques mots laconiques, un communiqué, pour que le ministre algérien de la Poste et des Télécommunications apprenne qu'il était remercié de ses fonctions. Il n'est plus ministre. Brahim Boumzar paye ainsi sa gestion pour le moins chaotique de la grève à la Poste qui a été déclenchée quelques jours avant les fêtes sacrées du Ramadan. Et c'est vrai que ces derniers jours, il y a eu des scènes absolument terribles où l'on a vu des Algériens entrant à la Poste, certains même réussissant enfin à récupérer un petit peu d'argent, et de colère et de rage et de fatigue, de lassitude, jetant les billets à terre. Ça a été filmé, des vidéos éminemment virales. On a eu le sentiment tout au long de cette crise qui n'est pas terminée, hein, la grève se poursuit. On a eu le sentiment que l'autorité à la Poste en Algérie n'était pas à la hauteur de l'événement. Ça, c'est une première hypothèse pour expliquer ce remerciement, ce licenciement, hein, pour parler clair. Maintenant, l'autre question qui se pose, Brahim Boumzar, c'est vrai aussi, est un proche du général Abdelkader Lechkam, qui fait actuellement l'objet d'un mandat de dépôt. Il se trouve à la prison militaire de Bida, où il devrait être jugé prochainement pour des affaires de crimes économiques et de haute trahison. Examen de conscience en Tunisie. Intellectuels, décideurs, journalistes, beaucoup réfléchissent à la trajectoire terrible de Jamel Gorchen, qui est l'auteur de cet attentat, l'assassinat d'un fonctionnaire de la police française, une femme âgée de 49 ans, mère de deux enfants. Cet homme qui souffrait de dépression a été envoûté par des prédicateurs radicaux. Il est passé à l'acte. Suite à cet attentat, le président français a demandé à son ministre de l'Intérieur de se rendre dans certains pays du Maghreb, dont la Tunisie, pour parler de terrorisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de terroristes viennent de Tunisie. Alors, il ne s'agit absolument pas, mais vraiment pas, de stigmatiser le pays. Mais c'est vrai que si l'on s'en tient au factuel, au nombre de militants activistes qui viennent de Tunisie, eh bien ce chiffre est important. Il mérite donc réflexion. Les autorités françaises veulent en parler avec leurs collègues maghrébins. La police marocaine de la ville de Tétouan va enquêter après une tentative de passage de migrants qui ont voulu rejoindre l'Espagne à la nage. Que s'est-il passé? Ont-ils bénéficié de complicité locale? Les forces de sécurité marocaines travaillent sur ce dossier. Le Maroc toujours, mais c'est une décision qui sera prise également au Maghreb, en Afrique et dans d'autres pays dans le monde, à l'occasion des fêtes du 1er mai, qui sont des fêtes traditionnelles. Mais c'est vrai que cette année, comme beaucoup de choses, il va certainement falloir annuler les rassemblements puisque l'état d'urgence sanitaire a été proclamé. Il faut être vigilant en raison du coronavirus. Donc voilà, les fêtes du 1er mai qui ne peuvent pas se tenir cette année pour des raisons sanitaires évidentes, espérons-le, pourront se tenir l'année prochaine. Mais qui faut-il croire dans le dossier des élections législatives palestiniennes prévues le mois prochain ? L'autorité palestinienne laisserait entendre qu'elle pourrait annuler le scrutin puisque le rendez-vous électoral ne pourrait pas avoir lieu à Jérusalem-Est. Or, le ministère israélien des Affaires étrangères vient de signifier à un groupe d'ambassadeurs de l'Union européenne qu'il n'avait absolument rien fait pour contrecarrer la tenue des prochaines élections palestiniennes, notamment à Jérusalem-Est. Qui dit vrai, qui dit faux ? L'avenir nous le dira. Incertitude en Irak. Notre escale du jour nous conduit en Irak où il se confirme que la colère populaire à laquelle nous avions assisté en 2019 est en train d'opérer une résurgence. Il y avait eu ces mouvements de population à l'est de la ville de Bagdad, des gens qui manifestaient contre l'absence d'eau dans les robinets, également les coupures à répétition de courant. Là, il y a encore eu d'autres mouvements dans d'autres gouvernorats irakiens qui sont toujours sur le même ressort, toujours la problématique des services publics qui sont en deçà de la demande des populations. Il y a aussi un climat d'anxiété par rapport au coronavirus, par rapport aux tests qui peuvent être effectués, par rapport à l'accès aux médicaments. Tout cela crée un climat de tension. Il y a encore donc des mouvements dans les rues de Bagdad qui sont à signaler et qui témoignent de l'exaspération de la population. L'autorité politique irakienne semble en tout cas entendre, au moins pour partie, cette colère de la rue, avec des initiatives très concrètes qui ont été prises dans des gouvernorats qui sont plutôt éloignés. Je pense ici à Diyala, avec la décision qui a été prise par le gouverneur de, entre guillemets, mais il faut vraiment mettre des guillemets, mais de reconquérir des zones qui ont été laissées à l'abandon. C'est vrai qu'il y a d'immenses régions pastorales, agricoles, où l'autorité de l'État est quasi absente. Donc le gouvernorat de Diyala a décidé de reprendre la gestion des bassins d'eau, l'eau, ressource ô combien vitale, de travailler à la réouverture des routes, à la connexion à l'électricité, mais également au Wi-Fi, au téléphone, à tout ce qui fait la connectivité aujourd'hui avec le monde ambiant. Et aujourd'hui, si les services de l'État sont en retrait, ce sont les groupes armés qui en profitent. Donc cela ne profite évidemment à personne. Donc il y a ces initiatives du gouvernement irakien qui veut essayer de réagir tant qu'il en est encore temps, ne pas se retrouver dans cette situation avec des manifestations importantes en Irak. Rappelons que celle-ci, selon des bilans des organisations humanitaires, il y aurait eu environ 500 tués et plusieurs centaines de blessés ou même de personnes qui ont été traumatisées lors d'affrontements avec les forces de sécurité. Donc pour que cela ne se reproduise pas, le gouvernement irakien essaie de reprendre l'initiative. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve demain pour de nouvelles colères du monde.